Les semaines s'enchaînent et c'est toujours un grand plaisir de retrouver Diego Rabal, Philippe Nouni, pour cette chronique littéraire que toutes les autres radios nous envient, ça c'est clair. Bonjour messieurs.
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe Supercase. Et bonjour Diego Rabal.
Comment allez-vous ?
Eh bien, écoutez, très bien, comme chaque semaine, je vous retrouve avec plaisir. Alors, je suis surpris aujourd'hui parce que vous nous faites un polar, Diego Rabal. C'est pas votre habitude.
Ah, c'est pas mon habitude. C'est pas mon habitude.
J'aime pas trop ça d'habitude. Mais ouais,
non. J'aime pas du tout les polars. Et nous recevons avec un grand plaisir Jean-Louis Nogaro, qui publie aux éditions Arcane 17 le Théorème des grands hommes. Bonjour Jean-Louis, comment allez-vous ?
Bonjour, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Eh bien, écoutez, tout va bien. Quand
tout
on
va bien.
Sort un polar, ça va encore mieux.
Ouais. Fait-il beau à Saint-Étienne ?
Ah, il fait beau et on a une température raisonnable aujourd'hui. Ça fait du bien.
Ah ben c'est super.
On respire.
Eh ben c'est parfait. Alors bon, vous connaissez un peu le principe de notre émission. Je reçois un auteur. J'ai lu son bouquin, heureusement d'ailleurs, et parce que tous ne le font pas, hein, n'est-ce pas, Philippe ?
Je confirme.
Vous lisez vos bouquins aussi.
Je lis des bouquins aussi.
Certains chroniqueurs ne les lisent pas.
Voilà. Donc mais on parle pas de notre émission à nous.
Voilà. Non. Voilà. Nous lisons les bouquins et donc j'ai lu votre livre et ça m'a inspiré un petit texte que je vais vous lire et auquel vous allez réagir, puis après nous allons échanger à bâton rompu comme nous avons l'habitude de le faire. Alors,
ça marche.
Le théorème des grands hommes de Jean-Louis Nogaro aux éditions Arcane 17, collection Polar Rouge. À Saint-Malo, un individu chargé d'une énigmatique mise en scène est dérangé dans son travail. Quelques heures plus tard, un cadavre est découvert dans le combi Volkswagen d'Yvon Ben Wazil, dit le Djerbien, marginal libertaire et collaborateur occasionnel d'un journal alternatif, le vilain canard du plateau. Pour le capitaine Joseph Digoin, cette affaire est plus complexe qu'il n'y paraît, et flanqué de la jeune gendarme Pauline, il va chercher à creuser au-delà des apparences. Ailleurs, la découverte à Aix-en-Provence du squelette d'un dinosaure jusqu'alors inconnu va mettre en branle une machination improbable autour d'un mouvement politique embryonnaire. C'est d'une plume alerte que Jean-Louis Nogaro nous emmène dans un road movie littéraire où les protagonistes parcourent la planète pour certains ou la diagonale française pour d'autres. Parfaitement documenté, l'auteur pointe dans ce polar jubilatoire les dangers que les propagateurs des thèses complotistes font courir à chacun d'entre nous, mais surtout et avant tout à ceux qui leur emboîtent le pas avec crédulité, inconscients du cynisme de ces séducteurs mortels. Un beau roman aux multiples rebondissements à lire sans tarder. Le théorème des grands hommes, Jean-Louis Nogaro, édition Arcane 17, collection Polar Rouge. Alors, Jean-Louis, j'ai pas trop écorché votre bouquin. Est-ce que j'ai pas trop divulgaché ?
Eh bien, non, c'est super bien. Très franchement, je vais récupérer ce que vous venez de dire pour le présenter. non, c'est bien, et c'est même flatteur, peut-être.
Ah non, c'est vraiment un roman que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et qui réellement, je trouve qu'il pose des problèmes et avec à la fois une certaine légèreté, ce qui ne fait pas de mal, mais avec une profondeur d'analyse qui est intéressante. Alors qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce roman ?
Alors, ça a été un petit peu comme tous les... C'est mon huitième roman. Et je pense, comme beaucoup d'auteurs, notamment les auteurs de polar, on a une espèce de septième sens en alerte toujours par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et quand on voit un petit truc qui passe, on se dit « Tiens, ça pourrait faire un sujet ». Et en l'occurrence, pour ce bouquin-là, j'étais en vacances dans le Midi, du côté d'Aix-en-Provence, et quand je suis en vacances, j'achète le journal local pour passer un moment et m'informer un petit peu. Et là, dans la Provence, il y avait un article sur la découverte juste de ce fameux dinosaure inconnu, à côté d'Aix-en-Provence, à Velo. À Velo, il y a un site archéologique exceptionnel. Et ce qui m'a surpris, c'était intéressant, hein, à nouveau des dinosaures, effectivement, j'ai dit tiens, je vais lire ça. Et ce qui m'a surpris, c'est que cette découverte avait eu lieu plusieurs années auparavant. Et en lisant l'article, les gens disaient, ouais, les paléontologues ne communiquent jamais quand il y a une découverte comme ça, parce qu'il y a énormément de trafic, d'ossements, depuis le film E.T. Ils disent, ah bah tiens, ça c'est intéressant, j'ai gardé l'article en me disant, je vais faire un truc peut-être sur le trafic d'os, etc. Et puis j'ai gardé l'idée, j'ai gardé cet article dans mes carnets, et j'en ai fait un polar, donc plusieurs années après, pas du tout sur le trafic d'os de dinosaures, mais sur une autre histoire qui m'est venue en tête, justement, avec ces montées des thèses complotistes. Et j'ai trouvé un lien et j'en ai fait une histoire.
Alors, on peut dire tout de suite que théorème, ça s'écrit T-E-O-R-E-M, et ce n'est pas une faute d'orthographe, parce que le théorème, c'est quoi ?
Alors, voilà. Alors, c'est marrant, parce que quand j'ai posté sur mes réseaux... avec quelques abonnés, voilà, sorti de mon nouveau bouquin, Le théorème des grands hommes. J'ai vu plein de messages, mais bon sang, il a fait une faute. Pour un écrivain, c'est un peu gros, et ça embrayait, etc. Et bon, ben, c'est pas une faute d'orthographe, sinon Arcane 17 me l'aurait corrigé.
Ben, je pense qu'Arcane, vous l'aurez bien corrigé, hein, ça c'est, y a pas de problème.
Complètement. Non, le théorème, T-E-O-R-E-M, et avec une majuscule sur le T,
oui.
C'est le téléphone ultra sécurisé des hommes politiques de haut niveau et des responsables militaires.
Mm-hmm.
C'est un
téléphone crypté, pour le dire autrement, de fabrication française, je crois.
C'est ça, c'est Thalès, voilà, le théorème de Thalès.
En plus, il faut le faire.
C'est des rigolos, hein, chez Thalès, ils auraient bien se marrer.
Mais voilà, parce qu'il y a Cryptophone aussi, qui est une autre marque, mais qui est une marque étrangère.
Voilà, c'est ça. Et ben voilà, le théorème, c'est ça. On en a un petit peu parlé à l'époque de l'affaire Benalla.
Ah oui.
Benalla, on va pas refaire l'histoire de Benalla, mais il s'était barré, une fois qu'il a été viré, il s'était barré avec son théorème, et ça lui a valu un deuxième effet qui se coule de la justice, parce qu'évidemment, c'est ultra sensible,
bah, oui.
On doit pas se balader avec un truc comme ça, quoi.
Mmh. Alors, vous parliez tout à l'heure que le trafic d'ossements avait énormément augmenté, de dinosaures, avait beaucoup augmenté au moment de la sortie de E.T. C'est étrange, il y a une explication quelque part de ça ?
Ouais, c'est l'engouement du public. Bah, E.T., voilà, tout le monde s'intéresse plus ou moins, hein, un dinosaure, machin, une nouvelle espèce, c'est, voilà, l'histoire, l'humanité, on descend d'eux, enfin... Voilà, pas plus, quoi. Hein, et quand il y a eu le film E.T., il y a eu un engouement énorme du grand public, d'après l'article, hein, j'ai lu l'article, pas plus, hein, j'ai pas fait plus de recherches. Il y a eu un gros engouement du grand public pour tous ces dinosaures, et puis, ça a créé une demande, quoi, une demande, et dès qu'il y a une demande, il y a des gens qui contournent la demande pour se livrer à des activités un peu malhonnêtes. Mmh. Et il y a eu sur les chantiers de fouilles, des vols, des choses comme ça. Donc voilà, c'était intéressant. Hein. Moi, dans le bouquin, il y a une scène sur ce chantier de fouilles. Et voilà, mais là, c'est pas les spectateurs d'E.T., hein, c'est un peu plus complexe.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de deux personnages importants? Yvon Ben Wassil, dit le Gerbien, donc qui se retrouve avec un cadavre dans son combi Volkswagen, et puis son comparse qui est le rédacteur en chef du vilain canard du plateau.
Ouais, Ludovic Mermoz.
Voilà.
Alors, moi, ce que j'aime bien dans l'écriture, c'est, au niveau des personnages, j'aime bien écrire des trilogies. Pas plus, pour le moment. Hein. Peut-être que je pourrais partir sur une série, je verrai.
Une saga.
Je m'interdis pas cette idée. Mais voilà, au bout d'un moment, moi, les personnages, je m'en lasse un peu. Hein. Au bout de trois, ça va, quoi. Ça fait beaucoup d'années passées avec eux. Et voilà, donc dans le théorème des grands hommes, c'est le troisième volet d'une trilogie. Alors ce sont des histoires complètement indépendantes les unes des autres, mais ça me permet de travailler les personnages beaucoup plus en profondeur, de revenir, de faire des retours sur leur passé. Et alors ces deux personnages, Mermoz et Benoissil, ils apparaissent dans le premier volume qui s'appelle « La morte des tourbières ». Donc voilà, c'était une enquête dans le massif du Pila qui se trouve à côté de Saint-Étienne. Mmh. Et voilà, avec un jeune journaliste idéaliste, enfin qui était en école de journalisme, étude un peu foireuse, voilà, pas l'étudiant très assidu. Mais voilà, par un concours de circonstances, il se retrouve avec un peu de sous et il monte un journal en s'inspirant, ben voilà, c'est Albert Londres, son
modèle,
son mentor, son modèle, voilà. Et il veut monter un journal qui va ressembler un peu au Canard Enchaîné, à Mediapart, etc. Mais au niveau très local, c'est-à-dire pour dénoncer les dérives locales, quoi. C'est faire du Canard Enchaîné sur son plateau, c'est pour ça le vilain canard du plateau. On est sur le plateau de Saint-Genès-Malifaux, là, dans le massif du Pila. Et Yvon Benoissil, c'est un gars qui vit dans le coin, et ils vont forcément se rencontrer, parce que lui, il se définit comme détaché de l'État français aux affaires antilibérales. C'est-à-dire qu'en gros, il vit du RSA, et il fait des coups, voilà, c'est un dégonfleur de pneus de SUV, c'est un décolleur d'affiches publicitaires, c'est...
Voilà. C'est à la fois un marginal, mais aussi un actif, quoi.
Voilà, c'est un marginal engagé dans son combat, voilà, un peu, en roue libre, freestyle.
Voilà. Oui, et puis c'est un personnage qui n'a pas froid aux yeux non plus, hein. Il arrive sans divulgâcher, je dirais, il y a une scène d'évasion d'une prison qui n'est pas piquée des vers, quoi. On voit bien que le gars n'a pas froid aux yeux et qu'il est prêt à tout pour son chien.
C'est ça, pour son chien, parce qu'avec, voilà, il y a un troisième personnage, alors il n'a pas un rôle, voilà, c'est pas Tintin et Milou, hein, mais il y a un troisième personnage qui est le chien de Benoissil, qui est toujours là dans les trois romans, qui n'a pas un rôle particulier, mais Yvon Benoissil est prêt à tout pour son chien. Mmh. Et ça peut influencer le déroulement de l'intrigue, parfois, et c'est le cas dans celui-là. Donc voilà, Benoissil, c'est le... Voilà, c'est le personnage capable de tout, sans limite, voilà, qui n'a pas peur de faire le coup de poing, etc. Et Mermoz, voilà, c'est l'eau et le feu. Mermoz, c'est le raisonnable, il a envie, il a des idéaux, ils ont les mêmes idées, hein. Mais Mermoz est beaucoup plus posé, c'est pas le gars, voilà, il va rester dans la légalité, alors que Benoissil, la légalité, il s'en fout comme de sa première chemise, quoi. Il avance dans la vie, Benoissil.
Mais il a des principes. Et puis, pouvez-nous dire quelques mots sur ce duo sympathique que représente le capitaine Joseph Digoin de la Maréchaussée, donc il est gendarme, capitaine de gendarmerie à Saint-Malo, et la jeune gendarme Pauline. Vous pouvez nous dire quelques mots sur ce duo-là ?
Voilà, bah oui. Ce sont deux nouveaux personnages. C'est la première fois que je passais un roman à Saint-Malo, donc il me fallait des flics de Saint-Malo, quoi. Oui. Parce que dans un roman policier, il faut
qu'il soit du cru.
Voilà. Et là, Saint-Malo, zone gendarmerie, il me fallait des gendarmes. Donc, je suis parti avec Joseph Digoin, que j'ai présenté. Alors, j'aime pas faire dans les précédents, c'est en zone gendarmerie aussi, j'avais peut-être commis une petite erreur en mettant des gendarmes un peu bébêtes, quoi, un peu bonnet, un peu carivois, un peu gendarme à Saint-Tropez, quoi. Pas à ce niveau-là, hein, mais bon. Et on m'avait reproché en disant quand même, tes personnages de gendarmes, ils sont un peu caricaturaux, quoi. On sent que t'aimes pas trop les flics, mais bon, faut peut-être pas exagérer quand même. Donc, alors que c'est faux, hein, j'ai rien contre les flics, hein, je le dis, voilà, à la radio et devant témoins, j'ai pas de problème avec les gendarmes, ni avec les policiers. Et voilà, donc ceux-là, je les ai rendus beaucoup, voilà, je sais pas s'ils sont plus réalistes, mais ils sont plus humains. J'ai essayé de plus travailler ces personnages pour ne pas en faire de simples, voilà, il y a les méchants d'un côté, puis il faut mettre des flics en face, quoi. Donc j'ai, voilà, et là, donc, Digoin, c'est l'expérimenté, qui gère sa
brigade.
Hein, ouais. Été à Saint-Malo... plein de monde, plein de boulot, etc. Il leur tombe cette affaire sur le coin du nez, donc surcroît de boulot, et donc ils vont bosser avec une équipe très resserrée, et dans cette équipe, il va y avoir une jeune gendarme, là, c'est une adjointe d'ailleurs, elle n'est pas encore gendarme, qui s'est trouvé mêlé au début de l'histoire, là vous l'avez dit, quand on trouve ce Maccabée dans le combi Volkswagen de Ben Wassil, elle est dans le coin, et c'est elle notamment qui, parce que quand Ben Wassil, il va avoir des problèmes avec ces gendarmes-là, hein, c'est elle qui va s'occuper du fameux chien de Ben Wassil. Mmh, mmh. Ce Joseph Digoin, Joe, comme il se fait appeler, il va prendre Pauline dans l'équipe. Et Pauline, elle débute, elle est jeune, elle fait un peu des conneries en début d'enquête.
Et au grand dam d'un de ses collègues un peu machiste.
Voilà, un autre, il y a une équipe, ils sont quatre, hein, ils sont une équipe resserrée sur cette enquête. Mmh. Et c'est la jeune collègue qui fait des bourdes, qui s'en veut, etc. Mais elle a quelques talents qui vont se révéler fort utiles dans la suite de l'enquête. Et on sent que le Joseph Digoin l'apprécie, cette petite jeune, au-delà de sa personnalité, mais aussi de ses compétences. Donc ça fait un
joli duo.
Un joli duo, je trouve. Hein,
oui. Oui, puisque sans trop déflorer, ils vont se retrouver ensemble à traverser la France, justement, pour aller sur le site des fouilles à Aix-en-Provence. Et ils ont une belle complémentarité tous les deux, à la fois une complémentarité professionnelle, mais humaine aussi, qui est vraiment très, très sympa.
Je suis content d'avoir pu faire passer ça auprès d'au moins un lecteur. C'était mon intention.
Vous allez voir, puisque là, votre roman vient de sortir de presse, hein, puisque là, il est tout frais, hein, il a 15 jours. Donc, il est sorti de presse. Je pense que les remontées et les retours vont être positifs, et vous allez voir que d'autres vont aussi avoir remarqué cela. Je voulais revenir sur, parce qu'il nous reste encore 2 ou 3 minutes, je voulais revenir sur le point central de cette histoire, parce que là on a vu un peu les personnages hein, qui gravitent dans l'histoire, mais il y a d'autres personnages, un certain Monsieur René, dont on ne comprend pas bien l'appartenance, mais dont on comprend bien le rôle. Et puis, il y a aussi une sorte d'embryon de parti politique qui essaye de se monter, un parti d'extrême droite. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit ?
Ouais. Alors, effectivement, il y a un parti d'extrême droite qui va essayer de se monter de toutes pièces et de manière très artificielle. Pour prendre le pouvoir, hein, c'est clairement leur objectif, arriver à prendre le pouvoir en France. Hein, avec l'arrivée de Macron, on a vu que c'était possible. Mmh. Pendant très longtemps, c'était ou le PS, c'était ou la gauche ou la droite, quoi, traditionnelle, classique. Mmh. Et puis avec Macron, on a vu qu'un gars pouvait sortir du tiroir et puis arriver au pouvoir. Et maintenant, on voit qu'il peut être réélu. Et moi quand j'ai commencé à écrire ça, c'était avant l'élection de Macron, je me disais ça c'est un peu improbable quoi qu'un parti puisse, bon puis finalement ça tombe bien, ça, c'est pas que ça m'arrange que Macron ait été élu, mais ça m'arrange que ça soit possible. Et ces gens-là, ce fameux René, qui est une espèce de barbouze, pareil, prêt à tout, c'est l'antithèse de Ben Wassil, hein, c'est-à-dire que lui c'est pas les enfers anti-libérales qui l'intéressent, mais il est prêt à tout aussi. Mmh. Et voilà, on est un petit peu c'est une officine qui agit, on le sent, on le devine, même si c'est pas approfondi, documenté, pour les hautes sphères capitalistes, on va dire, le milieu des affaires, qui travaille pour le milieu des affaires, et le milieu des affaires a besoin d'une forme de stabilité politique, et les idées d'extrême droite les dérangent pas spécialement. Et ça, ils font un peu le pari de cette stabilité politique. Et pour ça, il leur faut un parti créé de toutes pièces, mais à leur botte. Donc ils créent ce parti alors d'une certaine manière. Hein, là, c'est pareil, je vais pas trop raconter.
Non, il faut pas divulguer.
Parce qu'on a aussi des personnages qui vont faire partie de ce nouveau parti. Mmh. Et ce parti, il faut un truc fort pour exister. Et cette découverte de dinosaures peut les aider. Alors, c'est un peu, C'est un peu compliqué pour comprendre ça comme ça en le racontant. Il faut lire le bouquin.
Oui, ben ça, il faut renvoyer au bouquin, hein, parce que on va pas raconter toute l'histoire. C'est simplement pour essayer, pour que les auditeurs aient une idée un peu de comment s'organise le bouquin autour de ces différents personnages. Donc il y a d'un côté Yvon Benwassil et de l'autre le quatuor autour de Joseph Digoin. Donc je dirais un groupe de fouineurs d'un côté, hein, un groupe de policiers de l'autre, enfin de gendarmes de l'autre. Et puis au milieu de tout ça, il y a celui qui tire les ficelles et qui est ce fameux monsieur René, oui, effectivement, un barbouze, une officine officieuse qui aide à l'ascension d'un parti d'extrême droite. Donc il y a ces trois-là, et donc c'était important de voir comment ça s'articulait les uns avec les autres. Vous pensez que c'est un scénario qui pourrait réellement se passer?
Alors, malheureusement, oui. voilà. Et bon, je me suis appuyé sur là-dessus. Et, bon, là, on est une fois de plus rattrapé par l'actualité, hein, puisque à un moment du livre, ce fameux René, il se retrouve au Gabon. Mmh. Et Gabon, c'est l'actualité, c'est que coup d'État, etc. Et Gabon égale France-Afrique. Et on voit que tout ça, ça existe, c'est-à-dire que le coup d'État, la garde présidentielle des Bongo, et ben la France n'a jamais été très loin. Et là, je sais pas trop ce qui s'y passe en ce moment, mais à mon avis, la France est toujours là aussi. Et on est sur une affaire, on est sur une affaire planétaire, hein, dans un monde de fric, hein, et tout ça, voilà, ça, non seulement ça peut exister, mais ça existe. Voilà. Alors, de là à arriver à prendre le pouvoir dans un pays démocratique où les gens vont voter, bon, c'est compliqué, mais on sent quand même que la manipulation, on est à l'ère des réseaux, des informations non vérifiées, des chaînes d'infos continues qui appartiennent à des milliardaires. Enfin voilà, je dénonce rien, j'apprends rien à personne. Hein. Oui. On est dans ce monde-là. Et ben dans ce monde-là, ces choses-là sont possibles.
Oui. Ben on l'a bien vu, et on est passé très près de la catastrophe avec la remise en cause de l'élection de Joe Biden par Trump. Quoi. On est bien sur ce désir de tordre la réalité pour rester au pouvoir. On se rend bien compte que même dans un pays démocratique, le risque existe. Et on est passé quand même à deux doigts de que ça réussisse, quoi.
Ah mais exactement. C'est vraiment quelque chose qui on vit là dedans. Et alors sans vouloir inquiéter des gens. Voilà j'ai écrit ce bouquin. Voilà, il faut bien que vos auditeurs soient au courant. Je ne suis pas du tout un chercheur, un spécialiste en politique, rien du tout. Hein. Mais voilà, je vis dans la société et puis je regarde un peu ce qui se passe, comme beaucoup. Mmh. Et on vit dans ce monde-là, on le sait, on entend dire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, au bout d'un moment, on ne sait nous-mêmes plus trop ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Hein,
tout à fait.
ce polar, il est là-dessus. C'est vrai que je l'avais commencé il y a longtemps et je trouve que c'est le bon moment pour qu'il sorte parce que, à mon avis, il est vraiment dans l'air du temps. Quoi. On est une société dans laquelle ce genre de choses peuvent arriver. Quoi. J'espère qu'il y aura des Benwassil et des Ludovic Mermoz pour venir mettre
leur nez dans ces vilaines affaires.
Le petit grain de sable dans ces mécanismes très bien huilés.
Eh bien, Jean-Louis Nogaro, donc sur un jour, un livre, un auteur, sur Radio Présence. Donc, nous arrivons au terme de cette émission. Donc, nous vous recevons pour Le Théorème des Grands Hommes, paru aux éditions Arcane 17 dans la collection Paula Rouge. Eh bien, Jean-Louis, je vous souhaite une bonne journée et puis nous allons nous quitter, malheureusement.
Merci, au revoir.
Merci à vous et à bientôt.
Merci, à bientôt. Au revoir.